Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Ils sont jeunes, ils font partie de la diaspora marocaine, ils viennent d'une vingtaine de pays et ils participent à un programme d'immersion destiné aux jeunes marocains du monde pour renforcer leur lien avec le pays d'origine et leur engagement citoyen. Ce programme, qui porte le nom de Moroccan with Purpose, c'est une jeune maroco-canadienne, avocate de formation, elle vient de rejoindre le barreau du Québec il y a quelques mois, et bien elle l'a lancé en 2023. Et elle est avec nous pour nous en parler, Hiba El Haidi. Bonjour.
Bonjour Madame Hanan, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, vous avez fait des études de droit, vous êtes aujourd'hui avocate au barreau du Québec. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous raconter votre parcours migratoire? Vous avez grandi au Canada, n'est-ce pas?
Absolument. Donc moi, je suis canadienne. Là, je vais essayer un peu de dissimuler mon accent québécois qui peut ressortir très facilement.
C'est pas grave. Mais,
alors oui, effectivement, donc on a immigré avec ma famille quand j'avais 7 ans. 6-7 ans, je suis plus trop certaine. Donc toute ma vie, j'ai grandi au Canada. Et j'ai toujours dit, je suis canadienne d'origine marocaine ou québécoise d'origine marocaine. Ça, c'est intéressant parce que nous, les Canadiens qui habitons au Québec, on se sent plus identifié à la culture québécoise. Et ça, c'est assez particulier. Donc une personne de l'extérieur ne peut pas forcément le comprendre, mais c'est vrai que je me sens plus québécoise que canadienne. D'abord, de par la langue qui se distingue, nous sommes la seule province en Amérique du Nord qui parlons le français. Donc le français est très important au Québec. On veut le conserver. Des fois un peu trop à tort dans la manière, dans l'approche. Et puis, voilà, donc c'est une culture qui est à part également. Donc voilà, j'ai grandi au Québec, j'ai toujours dit que je suis québécoise d'origine marocaine, que c'est le meilleur des deux mondes.
Et quel lien vous entretenez depuis toute petite avec le Maroc pour qu'on comprenne aussi comment a émergé cette idée de Moroccan with Purpose? Pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet? Mais d'abord, quel lien vous avez toujours conservé avec le Maroc?
Je pense que le Maroc, on a quand même cette particularité dans la manière dont on fait les choses, dans nos parents bercent en nous la culture marocaine. C'est quelque chose qui n'a pas besoin de s'expliquer, en fait. On est tout simplement marocain dans le fond. On est fondamentalement marocain,
c'est-à-dire que les darija à la maison.
Ouais, par la darija à la maison, qu'elle a droit à la vie, qu'elle a oulou. Bon, darija djali chouya haka, mais je me le projet là, c'est à l'MTPCA, donc j'ai pu vraiment développer ma darija. Bon, le ramadan à la maison, la nourriture, nos traditions. Alhamdoulilah, on a une très très belle communauté aussi marocaine à Montréal. Je salue notamment Dal Mghrib, le centre culturel marocain à Montréal, qui est le plus grand centre d'un pays étranger au Canada. La direction fait un travail formidable de garder le lien. Justement, on a une communauté solide, on a des associations, des iftars qui se font. Donc forcément, de par la télévision, de par notre culture à la maison, mais également dans la petite communauté marocaine montréalaise, on conserve ces liens-là. Et moi, je me rappelle, pour la petite anecdote, quand j'avais 16 ans, c'était mon projet personnel de fin d'études secondaires, qui est le lycée ici au Maroc ou en France. J'ai lancé mon projet à moi, c'était quoi? C'était de faire un événement dans lequel classe la Malia. Vraiment, on a fait la Malia. Et on a amassé des fonds pour acheter des sacs d'école aux enfants démunis dans les régions de l'Atlas du Maroc. Donc, ce lien-là avec le Maroc a toujours existé. Et ça a toujours été très extra. Donc, j'ai toujours voulu le montrer, mais d'une manière très, très, très flamboyante. Et je pense aussi ce qui m'a poussée à créer Morocco with Purpose en quelque part.
Donc, c'est quelque chose qui vous habite depuis toute jeune, ce souci du lien avec le Maroc. Et vous y reveniez souvent?
Oui.
Alors, au-delà de faire vivre la culture marocaine à Montréal?
Justement, on revenait donc seulement les étés, des fois aux 2 ans. Mais c'est vraiment durant la COVID, quand tout a fermé. Et on avait la possibilité d'étudier à distance, par exemple, de terminer. Moi, je finissais mon baccalauréat à l'Université de Montréal en droit, que je suis partie au Maroc plus longtemps que d'habitude. Et c'est là que j'ai été frappée par un constat, en fait. C'est que je ne connaissais pas le Maroc plus que c'est mon pays, tout simplement. Il y a mon grand-père, il y a Dalpassidi Fès. C'est tout ce que je connaissais du Maroc. Et donc, quand l'univers un peu fermé, qu'on était confronté à nous-mêmes, on était sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à m'abonner aux pages d'Instagrammeurs marocains, aux pages de médias marocains. J'ai passé plus de temps là-bas et je me suis dit... Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que le Maroc, c'était beaucoup plus que juste mon pays. Le Maroc était en plein mouvement. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un blocus, en fait, entre nous, les jeunes marocains du monde, et de la diaspora, et le Maroc. Est-ce qu'on le connaît réellement? On a cette ferveur et cette envie toujours de le défendre, mais comment est-ce qu'on fait pour le défendre en le comprenant? Parce que c'est aussi intéressant, c'est aussi important. Je pense qu'en tant que juriste, en tant qu'avocat, c'était important pour moi de savoir répondre quand on me pose des questions sur le Maroc et moi-même être convaincue de ce que je dis. Et c'est comme ça que le projet est venu, en fait. Pourquoi pas?
Donc, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous aviez, en tant que jeune femme qui avait grandi, et en plus, pas dans un pays européen, dans un pays qui est un peu plus lointain,
Nord,
l'Amérique du Nord, vous aviez un lien affectif et culturel et un attachement presque instinctif au Maroc, mais qui n'était pas nourri par une connaissance solide de son histoire, des enjeux qu'il traverse aujourd'hui, des enjeux de développement, et que vous aviez besoin de comprendre ce qu'était profondément le Maroc pour pouvoir encore mieux le défendre, au-delà du lien
Absolument.
Affectif et
Absolument.
Émotionnel, mais d'avoir une connaissance beaucoup plus solide du Maroc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est né Moroccan with Purpose.
Absolument.
Comment on peut traduire, d'ailleurs, Moroccan with Purpose?
Moroccan with Purpose, le Maghreb bihadaf, le Maroc avec objectif. Et moi, j'ai toujours été comme ça, parce que je pense aussi que c'est dans ma personnalité de toujours être très, très impliquée, faire du bénévolat. J'ai beaucoup voyagé, je faisais des voyages culturels. Donc, pour moi, ce côté purpose, elle a toujours existé dans ce que je fais. Que ce soit sur les réseaux, créer du contenu avant éducatif. Donc, à quelque part, c'était la suite logique des choses. Pourquoi pas le faire avec mon pays et essayer de le comprendre? Donc, c'est vraiment venu de ce constat-là, effectivement. Et c'est ça, Morocco with Purpose. Je trouvais que c'est un mot qui était catchy. C'est vraiment venu très rapidement. Ça apportait tout son sens. Il fallait pas réfléchir plus loin que ça. C'était vraiment l'objectif, comprendre le Maroc. Notre objectif. Donc, avec objectif
Donc,
et transformer.
Donc, ça, c'était en 2023.
En 2022, actually.
2022.
En 2022, oui. L'été 2022.
Et quels sont les objectifs de ce projet? Vous nous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais concrètement, comment vous mettez en œuvre ces objectifs? En quoi consiste ce projet?
Alors, en une phrase simple, c'est une immersion culturelle et intellectuelle. Moi, je n'ai pas inventé la donne. Je n'ai pas inventé que des Marocains du monde viennent vivre une expérience culturelle. Par contre, ce que je peux dire avec beaucoup d'humilité, c'est que je pense que c'est le premier programme où les Marocains du monde, les jeunes, sont les protagonistes de l'histoire. On n'est pas assis en train de regarder des conférences, on n'est pas juste en train de voir les gens. Non, on est... Et d'ailleurs, hier, dans la soirée d'inauguration qui a eu lieu, les jeunes Marocains du monde ont défilé dans un caftan marocain accompagné de l'artiste Jaylen, par exemple, qui est la nouvelle chanteuse maintenant de l'année, qui nous a fait la chanson de El Haoulidi. Demain, donc le 23, ils vont présenter des projets sur lesquels ils ont travaillé pendant le bootcamp Morocco with Purpose devant le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Riyad Mezzoul, à l'Université internationale de Rabat, qu'on remercie d'ailleurs pour cette belle collaboration. Donc, ils ne sont pas juste là pour visiter le Maroc, ils sont là pour réfléchir le Maroc, apporter leur grain de sel, s'imaginer, le conceptualiser, mais pas dans une posture de « Ah, moi, je viens de l'étranger, donc je sais mieux que vous », mais vraiment dans une approche d'écoute et... Comme j'ai toujours dit, le meilleur des deux mondes. Donc, je ramène un peu de ce que je sais avec comment le Maroc, il se développe dans son cahier de charge, dans sa manière, dans les orientations de Sa Majesté le Roi, et vraiment créer en fait cette synergie-là. Donc, les Marocains du monde, ils visitent le Maroc, ils ont une belle soirée d'inauguration. Aujourd'hui, ce soir, d'ailleurs, il y a un match où les légendes du foot vont affronter les Marocains du monde. On aura M. Jawad Zaidi, on aura Ahmed Bejar. Donc, c'est vraiment créer cette synergie. C'est pas juste des spectateurs, c'est des protagonistes. Et c'est ça comment Morocco et Purpose se distinguent.
Alors, avant de nous parler des projets que peuvent présenter ces jeunes Marocains de la diaspora, d'abord, comment vous choisissez... D'abord, quel est votre public cible? Est-ce qu'il y a des critères de sélection des Marocains qui participent? Et comment vous les identifiez? Parce que je crois que l'an dernier, il y avait une centaine de jeunes venus de plus de 20 pays. Donc, d'abord, qui vous ciblez et les critères? Et deux, comment vous faites pour les repérer et les identifier?
Absolument. Alors, on a une approche un peu différente que ce que fait, par exemple, le ministère des Affaires étrangères avec leur projet pour les Marocains du monde. Premièrement, pour moi, c'est important dans les critères, que ce soit des... Et j'aime bien différencier le Marocain résident à l'étranger et le Marocain du monde. Parce que le Marocain résident à l'étranger, à mon avis, ça peut rentrer dans deux catégories. Ça peut être un Marocain qui réside depuis plusieurs années ou un Marocain qui ça fait quelques années, tout simplement. Ça ne n'enlève en aucun cas que c'est un Marocain du monde, qu'il est l'ambassadeur de son pays. Mais pour moi, quand même, je pense qu'il y a une approche un peu différente entre les Marocains du monde et qu'on a grandi à l'étranger. On a ce rapport avec le Maroc qui est un peu différent. Donc pour moi, c'est important quand même que le jeune participant, il a été loin du pays depuis très longtemps. Soit qu'il est né à l'étranger, soit que vraiment depuis son enfance et qu'il veut cultiver ce lien avec le Maroc. De deux, on cherche...
Donc ce sont des jeunes qui sont de deuxième, troisième, quatrième génération.
Absolument,
c'est ce qu'on veut
vraiment.
Critère.
C'est le premier critère. Ensuite, on veut des jeunes qui sont engagés. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas juste un voyage, et je leur dis toujours, c'est pas un voyage, c'est un mouvement, c'est un moment de réflexion. Je veux des, dans le formulaire, on leur dit, avez-vous déjà pensé à un projet que vous voulez développer au Maroc? C'est quoi les thèmes thématiques? Et on voit un peu comment est-ce qu'ils veulent réfléchir ensemble, parce que justement, on aborde cette composante de bootcamp où ils sont amenés une fois par semaine, dans le mois précédent l'immersion, à se rencontrer en équipe, à choisir des thématiques de projet. Ils se rencontrent et ils la préparent. Comme ça, quand ils viennent, ils la présentent devant des institutionnels, devant le ministre du Commerce. On donne une copie à monsieur le ministre de la Jeunesse, qui est d'ailleurs notre partenaire et qui subventionne le projet. Donc, c'est comme ça un peu les critères. C'est...
Non, est-ce qu'il faut qu'ils aient déjà un projet dans le pays d'origine qu'ils pourraient dupliquer au Maroc, ou c'est juste
pas
de réfléchir
juste
à un
de réfléchir,
projet qu'ils veulent
voir
proposer
qu'il y a un
ici.
Intérêt, voilà, voir qu'il y a un intérêt. Après, c'est sûr que si en plus on a qu'ils ont déjà développé, on sent vraiment cette volonté, donc il y a un petit concret. Et c'est comme ça que le projet se distingue.
Et dans différents domaines, ça peut être la culture,
absolument.
Le social, dans différents domaines, la tech.
Oui, et c'est ce que d'ailleurs ce qu'on veut. On veut la diversité tant dans les projets, dans les idées et dans les pays. Donc on essaie le maximum, vu qu'on a un nombre très restreint, d'aller chercher le maximum de personnes de différents pays.
C'est combien de jeunes que vous ramenez?
Alors on est à 50 jeunes. On est à 50 jeunes, mais il y a 15 lauréats qu'on récompense. Et avec les réseaux sociaux et les documentaires qu'on produit, ça atteint vraiment une plus grande cible. Mais pour le voyage, on est une cinquantaine de jeunes.
Est-ce qu'il y a un critère d'âge?
Oui, il y a un critère d'âge. On cherche les universitaires à peu près cet âge-là, entre le, comme on appelle nous, le cégep au Québec, c'est-à-dire le post-bac.
Oui,
entre
l'université.
Lycée et l'université, ou les jeunes diplômés, les jeunes gradués qui viennent de commencer leur carrière. Parce qu'on veut quand même qu'il y ait cet espace de réflexion et cette posture très jeunesse, très dynamique aussi.
Et vous recevez beaucoup de demandes, parce que vous l'avez dit, vous ciblez les Marocains du monde, donc des gens qui sont installés au Maroc, à l'étranger, pardon, depuis très longtemps. Donc ce sont des jeunes qui en sont, font peut-être partie des deuxième, troisième générations. Ils répondent présents, ils ont cet attachement
absolument.
Comme vous au Maroc. Vous avez des difficultés à les convaincre?
Non, absolument pas. Au contraire, on a de la difficulté à choisir et on a de la difficulté à malheureusement le limiter à ce nombre. On aurait tellement aimé que ce soit plus. Peut-être que ça le sera, Inch'Allah, dans le futur, si on peut avoir des partenariats plus privés ou avec d'autres institutions. Mais non, au contraire, vous savez, l'approche qu'on a, elle est un peu différente. Ça veut dire qu'on va chercher les candidatures à travers les réseaux sociaux. On saute un peu dans cette vague de la technologie, de réseaux sociaux. Et c'est les créateurs de contenu marocains qui sont suivis, par exemple, par ces jeunes ou même des créateurs de contenu à l'extérieur. On utilise nos réseaux sociaux, LinkedIn, etc., qui font la promotion du projet. Donc le jeune, forcément, il est déjà intéressé parce qu'il suit déjà des pages ou des médias marocains, ou des créateurs de contenu marocains. Déjà, il y a un intérêt. C'est comme ça qu'il s'inscrit qu'il fait partie de l'aventure.
Alors cette année, vous avez des jeunes qui viennent d'à peu près combien de pays et comment vous faites avec la question de la langue? C'est bête, hein, mais
c'est vrai.
Si vous avez des jeunes qui viennent de plein de pays qui sont pas nécessairement francophones ou anglophones, comment vous faites avec la question de la langue?
Absolument. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on doit toujours trouver une manière intelligente et inclusive pour tout le monde, surtout pour pouvoir vivre l'aventure et profiter le maximum. Alors on est à peu près entre 15 et 17, 18 pays, si je ne me trompe pas, cette année, on a des gens de l'Emirat, le Sénégal, vraiment du monde entier. Le barrage de la langue, qu'est-ce qu'on fait le maximum? On essaie de parler en darija, parce qu'on va dire c'est la langue commune. Sinon, dans nos communications, on essaie d'y aller avec l'anglais et le français, de vraiment diversifier. Mais c'est vrai que c'est... Et vous avez, demain, ils vont présenter leur projet. On a fait un défi à ce qu'ils le fassent en darija et de normaliser la darija telle qu'on la parle. C'est pas obligé d'être une darija pro ni un arabe classique, mais vraiment darija qui fait mahna marabat l'alam, qu'en hadroha. C'est aussi ça un peu le défi, de se retrouver dans cette langue
comme on est.
Devenir comme on est et se retrouver dans notre langue commune, notre langue, la darija populaire, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'aime et telle que nous, Marel Batla l'aime, et ne pas avoir cet obstacle ou cette fracture parce que je ne suis pas capable de dire ce mot, par exemple, ou qu'il me manque un vocabulaire, mais vraiment d'y aller avec le cœur.
Alors, quand vous dites qu'ils vont présenter leurs projets, c'est quoi la suite? Donc, ils vont présenter des projets de développement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils sont lauréats, qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce qu'il y a un suivi opérationnel? Est-ce qu'il y a un financement de ces projets?
C'est pour ça que cette année, on a voulu un petit peu dépasser juste le côté de présentation. Et puis, on a ramené dans le jury des institutions. Il y aura d'ailleurs le président de l'UCCME, M. Delicia Zemi, qui sera présent parmi nous. Donc, demain, à l'Université internationale de Rabat. Il y aura le ministre du Commerce, le CGEM, qui sera représenté également pour parler de la 13e région. Il y aura Maroc Entrepreneur, une association justement basée à Paris depuis plus de 25 ans, si je ne me trompe pas, depuis 1999, qui œuvre justement à aider la diaspora marocaine de France à investir au Maroc. Donc, on a ramené des institutionnels clés qui vont les aider à leur montrer la route vers l'investissement ou comment aller trouver du sponsoring pour leurs projets, etc. Les institutionnels clés ont été choisis de cette façon-là. On aura Madame Lamia Benmrelouf, par exemple, de Technopark. Donc, vraiment des personnes clés qui vont pouvoir leur dire, d'accord, voici la faisabilité d'un tel projet. Et ceux qui ont vraiment envie de le faire, de pouvoir de rencontrer les personnes clés qui vont les aider à le mettre en œuvre.
Donc finalement, c'est quelque chose qui a double sens. C'est que à la fois, ces jeunes peuvent être une opportunité pour le Maroc et le Maroc peut aussi être une opportunité Absolument. Pour eux, notamment Absolument. Économique. Donc, ils ont conscience de ça de part et d'autre.
Absolument. Je pense qu'ils ont conscience de plus en plus. Des fois, ils ne se rendent pas compte du potentiel où il y a vraiment cette peur, en fait. Cette peur, quand tu vis toute ta vie à l'étranger, mais tu sens que le Maroc est en mouvement. Et des fois, on a comme cette anxiété, est-ce qu'il y a un train qui est en train de passer? Est-ce que, donc, en tant que jeune Marocain du monde, on devrait se retourner vers le Maroc investir? Mais il y a aussi cette fracture. On ne parle pas forcément la langue. On n'a jamais vraiment vécu. Il y a le côté administratif qui fait très, très peur. On entend des ravages sur le côté administratif du Maroc. Donc, je pense qu'il y a cette peur. Mais quand ils voient que des gens comme ça, des institutionnels répondent présents, puis ils les écoutent et qu'ils ont leur place, je pense que intérieurement, cette idée qui était éloignée commence à se concrétiser. Ils se disent pourquoi pas, en fait. Et je pense que là, il y a un peu, j'ai pas envie de dire une mode, je pense pas que c'est une mode, mais c'est vrai que la deuxième ou troisième génération d'immigration, il y a vraiment, vraiment un retournement vers le Maroc. Et c'est très difficile à expliquer. Je sais pas qu'est-ce qui explique.
Est-ce que le contexte des pays d'accueil joue, par exemple? Parce qu'on sait que dans beaucoup de pays européens, il y a aujourd'hui un discours d'extrême droite qui est de plus en plus décomplexé. Il y a le regard qui est porté sur l'islam ou sur les cultures, on va dire, arabo-musulmanes. Il y a les crises économiques aussi, le fait que l'inflation, etc. Et qu'aujourd'hui, peut-être que... Est-ce que vous pensez que ça peut être des facteurs explicatifs? Et d'ailleurs, est-ce que les jeunes, depuis que vous avez créé ce programme et que vous échangez avec eux, est-ce qu'il y en a qui commencent à réfléchir à l'idée de rentrer au Maroc? Et généralement, ils viennent plutôt de quel pays?
Oui. Alors, on a beaucoup d'Européens, c'est sûr. C'est la force des choses avec la diaspora, comment elle est divisée dans le monde. Et pour répondre à votre question, je pense que oui, absolument. Et ça, on me l'a dit d'ailleurs. Par exemple, les jeunes qui viennent d'Europe, de France, c'est pas le même contexte qu'un jeune Canadien. Un jeune Canadien, il va parler de l'inflation, par exemple. Il va parler du contexte de vie, de la qualité de vie. Bon, le Canada, c'est un très beau pays, mais on va parler, par exemple, le Canadien va dire « Ah, mais il fait toujours très froid. Je me sens loin. S'il arrive un truc, je me sens loin. La température, l'inflation, c'est pas forcément les opportunités, parce que ça va, si on la compare un petit peu avec la situation en Europe et l'extrême droite, versus le français qui va dire, mais je me sens plus, même si je suis français de deuxième, troisième génération, je me sens plus, je suis juste toujours l'autre, je suis le Marocain avec tout ce qui se passe, la culture toxique des médias, l'islamophobie qui persiste et qui commence malheureusement à affecter même le Québec. Donc je pense effectivement que ça vient de différents... d'histoire personnelle et en lien avec le contexte géographique de où ils sont. Absolument. Donc,
Et vous pensez aussi que le Maroc a pris conscience du potentiel que représente cette jeunesse marocaine de la diaspora? Parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup d'institutions qui se joignent à ce projet. Vous en avez mentionné plusieurs, dont le CCME d'ailleurs, qui sera présent dans ce jury pour sélectionner les lauréats et leurs projets. Est-ce que vous sentez donc aussi qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience et une volonté? Le roi d'ailleurs avait, dans un de ses discours, appelé à mobiliser il y a quelques années, les compétences marocaines à l'étranger. C'est quelque chose qui revient très souvent. Donc, ça vous rassure de voir qu'il y a à la fois cet intérêt et puis cette réelle, on va dire de façon concrète, volonté d'accompagner les jeunes de la diaspora?
On dirait que plus ça devient toxique ailleurs, plus le Maroc il devient positif. Donc, on dirait que c'est une parfaite contradiction et opposition qui fait en sorte que les gens se disent... je vais retourner chez moi. On se retourne vers l'Afrique aussi, pas juste le Maroc. On se retourne vers l'Afrique. L'Afrique est devenue, a toujours été, mais maintenant encore plus, on réalise le potentiel de l'Afrique, le développement africain. Donc, on se réaffirme en tant qu'Africain aussi. On voit avec la CAN qui approche très bientôt aussi, actuellement la CAN féminine. Donc, c'est des choses, je pense, qui voilà, c'est le parfait contraste.
Il y a un concours de circonstances.
Il y a un concours de circonstances
qui rend les choses encore plus
absolument plus réalisables. Et puis il y a cet appel de Sa Majesté. Je pense que on est très chanceux. On est très chanceux de l'avoir. Et les autres pays ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas juste un symbole. Tu te sens chez toi. Il y a le chef suprême de la nation qui t'appelle en fait. Et tu sens que justement on revient. purpose. There is a purpose behind. Il y a un objectif, il y a un but derrière. Et je pense que ce sentiment d'appartenance-là qu'on perd ailleurs où on reste toujours les autres, ben on le retrouve au Maroc. Et si en plus, on peut y contribuer avec nos compétences, on peut le faire. Après, on peut pas rester dans l'utopie. Je pense aussi qu'il faut être un peu plus...
Réaliste,
en fait. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'informations de tous les côtés. Il faut juste pas que ça devient une image. Il faut juste pas qu'on saute dans le trend, tout simplement pour le faire, mais qu'il faut qu'on trouve des outils qui soient justes, qui soient inclusifs et qu'on... inclusif même avec les Marocains du Maroc. Parce que là, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un débalancement.
C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ces jeunes Marocains de la diaspora qui donc viennent avec des idées, avec des projets. Vous avez dit un mot important, qui viennent aussi en toute humilité pour proposer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont envie de faire. Mais est-ce que vous intégrez dans cette semaine d'immersion, comme vous l'appelez, des Marocains d'ici? Parce que les jeunes Marocains que vous évoquez de la diaspora, ils vont être en interaction, ne serait-ce que dans la mise en œuvre de leur projet, avec des jeunes Marocains d'ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de mettre en pratique des rencontres, des dialogues, des échanges avec les jeunes d'ici pour qu'il n'y ait pas un sentiment de décalage entre les deux? Est-ce qu'ils sont intégrés dans cette semaine d'immersion?
Ils ne sont pas intégrée dans le voyage, mais je suis ouverte à cette idée. Je pense que ça serait une très, très, très belle chose. Par contre, dans les formations qui sont en amont pour préparer leur projet, ils sont formés par des jeunes Marocains d'ici. Donc, des jeunes Marocains, par exemple, des citoyens qui nous aident aussi pour qui sont nos collaborateurs pour l'événement de demain, donc pour la présentation des projets. Alors, les personnes qui les forment, leurs mentors, c'est les Marocains d'ici. C'est les success stories du Maroc, c'est les jeunes comme eux d'ici. Donc, il y a déjà cette approche-là. Et deuxième chose, on a les créateurs de contenu, ils voyagent avec nous. Mais ils ne voyagent pas avec nous juste parce qu'ils ont fait la promotion, mais ça crée aussi un peu cet échange, en fait, de ce jeune Marocain qui était un peu l'élu du peuple, passé sur les réseaux sociaux, que les gens aiment et qui suivent, et à quelque part représente un peu le jeune Marocain de tous les jours qui voyage avec nous. Donc, après, est-ce que on devrait inclure un peu plus de jeunes d'ici? Absolument, je suis d'accord avec vous. Mais en quelque part, on crée depuis le premier jour cette synergie entre ici et là-bas. Et il y a cet échange, on écoute, on apprend et on redonne avec nos opinions venues d'ailleurs. Mais absolument, il ne faut pas qu'il y ait un trop grand...
Mais les mentors qui les accompagnent, quel regard portent-ils sur à la fois cette initiative, sur les projets, sur les jeunes qui viennent les proposer? Est-ce qu'ils sont dans une attitude très ouverte et sensible à ces projets?
Absolument, ils sont sensibles tant à la langue, tant à comment bien les former, à leur expliquer comment ça fonctionne au Maroc, parce que ces jeunes-là, oui, bon, ils ont la créativité, ils ont l'intelligence de réfléchir à des projets, mais ils savent pas concrètement comment ça pourrait s'appliquer au Maroc. Donc on a ces mentors-là, ces jeunes, par exemple, qui viennent des citoyens, ben qui leur disent voici comment ça fonctionne au Maroc. Non, c'est pas comme ça, c'est plus comme ça. Ils leur expliquent. En fait, ici, parce qu'on parle beaucoup de l'art de faire les choses, il y a des façons de faire, et aussi nous expliquer ces façons de faire.
Il y a tout simplement aussi des codes culturels.
Des codes culturels que peut-être nous on n'a plus, en fait, d'être à l'étranger, de juste savoir les manier et trouver un équilibre. Donc non, absolument, c'est une approche qui est très inclusive, qui est très ouverte, c'est un partage de connaissances. Comme j'ai dit au début, c'est pas dans une approche de donneur de leçons, absolument pas. C'est quelque chose que j'étais très claire depuis le début, et que on n'est pas dans ça. On est vraiment dans une approche d'écoute et d'équilibre et de co-création.
Donc, si on devait synthétiser, il y a un enthousiasme, il y a des opportunités, il y a des personnes qui sont intéressées, il y a un contexte qui est favorable. Et tout le sujet maintenant, c'est d'arriver à canaliser toutes ces énergies, à canaliser toutes ces envies pour qu'elles ne débordent pas et ne restent pas juste des projets, mais qu'elles se concrétisent. Alors, par exemple, parmi les projets qui ont été lauréats l'an dernier, est-ce qu'il y en a qui sont en train aujourd'hui de se mettre en œuvre concrètement? Est-ce que ces projets sont devenus réalité pour quelques-uns d'entre eux? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Justement, Monsieur le Ministre, il le disait l'année passée, Ministre de la Culture, Monsieur Ben Saïd, à la troisième édition, il nous avait fait un petit mot à la soirée d'inauguration. Il m'a dit, Hiba, tout ça c'est très bien, mais ces jeunes-là qui viennent, qu'est-ce qui se passe après? Et hier, à la soirée d'inauguration, on a justement présenté une genre de réponse à Monsieur le Ministre. Parmi plusieurs, il y a au moins 3 jeunes. Il y a un qui a créé l'association marocaine à Toulouse et qui a créé la première édition du voyage des Français, vraiment des Français d'origine et des Marocains de France, un voyage institutionnel au Maroc. Et c'est venu dans l'élan, en fait, du re-rapprochement, si on a envie de dire, entre le Maroc et la France, par exemple. Il y a notre jeune de la deuxième édition qui a créé l'association IMIA, qui permet à des jeunes Marocains de tout le monde de se connecter ensemble pour chercher des opportunités de travail, par exemple, de savoir comment faire le bénévolat, et tout ça dans les objectifs ODD des Nations Unies. On a une jeune qui a créé une association à son université à Londres. Et il n'y a pas que ça, en fait. À Morocco et Trépès, par exemple, hier, on récompense des lauréats qui sont déjà activement en train de faire quelque chose pour faire briller le Maroc. C'est la deuxième édition du trophée Bean Bled. Donc, par exemple, hier, on a remis des trophées à, par exemple, Ilyen et Mohamed, qui sont derrière TFT Morocco, un média de la diaspora, qui viennent translater l'information de façon très dynamique, très jeune, mais qui va droit au but. On a les deux, Rahma et Yasmina, qui sont les visages derrière l'association Al-Qantara à Paris, qui font un travail extraordinaire. En moins d'un an, ils ont rassemblé plus de 5000 jeunes qui participent activement avec l'appui de Madame l'ambassadeur Samira Sitaïl à Paris. On a Mohamed Shraibi qui a créé Mentor Class Academy, c'est un Marocain du monde, qui est vraiment dans la tech, dans la transformation digitale, et qui va venir à travers des capsules aider les jeunes. Donc, on a des exemples concrets de leaders qu'on va venir récompenser dans la soirée d'inauguration. Puis, on a ces jeunes qui sont soit dans la fin de leurs études, début de leur carrière, où on leur présente « Je ne connais pas le Maroc, j'ai grandi toute ma vie au Canada, j'ai des idées. » Là, c'est la première étape d'eux. Donc, ça peut aussi être ça. C'est la première étape d'un chemin qu'on croyait impossible et qu'on croyait trop éloigné.
Mais alors, les projets que vous nous avez cités, c'est un peu des projets où ces jeunes deviennent des ambassadeurs du Maroc dans leur pays de résidence à travers ces associations, la diffusion de la culture, le lien institutionnel. Est-ce qu'il y a aussi des projets qui se concrétisent ici au Maroc qui servent directement les Marocains? Ou est-ce que c'est surtout un travail qui est fait en direction des pays de résidence pour promouvoir le Maroc?
Là, je vous donne un exemple. Demain, ce qu'on va entendre, c'est des projets pour le Maroc. Il y a une des équipes qui veulent créer une genre d'application comme Uber Eats, mais pour les emplois informels du Maroc, de formaliser les emplois informels qui, des fois, n'ont pas de cadre ou de structure, soit à travers un cadre juridique, soit à travers une application, quelque chose qui va venir vraiment concentrer ces travaux informels et les rendre formels et accessibles à la grande population. Donc, les projets qu'on va voir demain à l'Université internationale de Rabat, c'est des projets qui vont s'installer ici au Maroc. Donc, ils réfléchissent pour le Maroc. Mais les exemples concrets que je vous ai dit, il y en a que c'est dans la diaspora. Et comme vous avez dit, c'est des ambassadeurs de la diaspora. Mais je pense aussi que l'association Toulouse, marocaine de Toulouse, qui ramène les Français ici, je pense que c'est du concret, en fait. C'est une diplomatie, c'est un soft power, et on peut pas le nier qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il faut des projets concrets, mais alors, le Maroc, en grande partie, c'est aussi énormément de soft power, et on a cette force, nous, les Marocains, de communication qui est extraordinaire, qu'on est des caméléons dans ce qu'on fait, et donc je pense que ça aussi, c'est une... et surtout avec la CAN qui approche et la coupe du Monde, de réfléchir ensemble comment utiliser cette force qu'on a, mais d'ajouter l'AI, la technologie, et puis les anciennes générations, de les inclure pour rendre, encore une fois, ces emplois informels en emploi formel, pour les aider à continuer dans l'employabilité, etc. Et donc, vraiment trouver cet équilibre entre jeunesse et intergénérationnel. Vraiment, il y a plein d'idées.
Mais oui, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse. On a rappelé que ça s'adressait d'abord à des jeunes Marocains de la diaspora, mais il y a aussi tout un savoir-faire et une histoire d'entrepreneuriat, etc., qui a déjà été établie par des anciens, et que peut-être ce dialogue aussi avec les anciennes générations, je ne sais pas s'il existe aussi dans votre projet, mais ça peut être aussi quelque chose d'enrichissant et qui n'exclut pas justement des gens qui ont peut-être aussi fait d'autres choses par le passé.
Non, je suis d'accord avec vous, c'est une opportunité qu'on doit explorer absolument. Il faut le savoir-faire marocain, c'est surtout ça. Et c'est vrai que des fois, il ne faut pas, avec tous les changements qu'on connaît, et surtout on parle énormément d'AI au Maroc, il ne faut juste pas oublier d'où on vient réellement, et c'est qui les vrais entrepreneurs marocains. Et par exemple, l'année passée, à la troisième édition, on avait ramené des artisans de Fès. Ils sont venus, ils ont pris la route, et ils montraient leur savoir-faire dans la soirée d'inauguration à Challah. Donc, c'était un peu pour leur rendre hommage, mais il faut bien plus que ça. Et ça, on le fait un peu dans les rencontres, dans les voyages. Donc, on part aux différentes associations, par exemple, ou là, chez les artisans, qui nous montrent un peu comment faire. Mais il faut plus. Il faut plus. Il faut qu'il y ait une intégration réelle dans le partage d'idées. Il faut que le savoir-faire d'une personne plus âgée soit transmis à ce jeune qui, lui, va le transmettre à travers les outils technologiques et la tech, etc., pour le rendre un projet national ou un projet international aussi.
Alors, on évoque depuis tout à l'heure des projets qui sont des projets concrets d'entrepreneuriat, d'associations. Vous avez aussi parlé d'applications, etc. Et est-ce qu'il y a aussi, dans cette semaine d'immersion, des visites culturelles, des choses liées à une meilleure connaissance du patrimoine? Parce que je reviens à ce que vous-même vous disiez tout à l'heure, qui part de votre sentiment et de votre vécu personnel. Il y avait ce lien affectif, mais très peu de connaissances, finalement, peut-être même sur l'histoire du Maroc, etc. Donc, qu'est-ce qui est fait aussi pour ça, pour combler peut-être peut-être que le mot lacune est trop grand, mais pour combler peut-être ce manque de connaissances sur le Maroc et qui peut, vous le disiez tout à l'heure encore une fois, donner des arguments pour mieux porter ce soft power.
Bah, je vous donne un exemple. À la deuxième édition, c'était vraiment l'édition thématique 100% Sahara Maghrébia. Encore une fois, Sahara Maghrébia à Lèche. Et là, on avait une journée où on avait un historien qui est venu nous parler, qui est venu nous expliquer de façon très dynamique, de façon claire, pour qu'on puisse comprendre dans nos langues. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant qu'on a accumulé cette information-là, comment faire pour concrétiser et donner envie aux jeunes de s'intéresser à la question du Sahara? La deuxième édition, on est parti à Dakhla. On n'est pas juste parti à Dakhla, on est parti à Dakhla, dans le désert du Dakhla, et on a fait une simulation symbolique d'El Masil al-Khidra. Donc on portait tous des vêtements très très anciens avec nos drapeaux, et on chantait Nida al-Hassan. Après ces connaissances qu'on a fait, on a fait un documentaire sur deux amis qui s'appelle Les Hlet Samra Labit, qui est passé le 6 novembre 2023 sur la chaîne. Donc c'est vraiment, et c'est ça ce que j'aime de Morocco with Purpose, c'est qu'on va avoir des cours très formels ou des rencontres avec des historiens qui vont nous expliquer, mais après on va le simuler. Ce qu'on a fait l'année passée aussi, on avait des rencontres avec des parlementaires en amont sur par Teams ou sur Zoom. Ils nous expliquaient le fonctionnement du Parlement marocain, de la constitution, de la division des pouvoirs. En ayant ces connaissances, la troisième édition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme l'ouverture du Parlement marocain, on a fait une simulation parlementaire. Donc c'est ça ce qui distingue ce projet, c'est qu'il y a le côté très formateur, très institutionnel, très sérieux, mais qui se concrétise avec un moment très fort en symbolique, qui donne envie aux jeunes de dire « ouais, ben moi aussi, j'ai fait partie en quelque sorte ». Et vraiment, c'était un sentiment incroyable, la simulation de la marche verte. Les jeunes, ils appelaient leurs parents, c'était les gens pleuraient, c'était une sensation très forte, on l'a pris très au sérieux. Les gens autour de nous qui nous voyaient filmer, ils disaient « est-ce qu'on peut venir se joindre à vous ?» Et ça a fait un moment très fort, ça a eu 2 millions de vues sur 2M instantanément lorsque ça a été diffusé à la chaîne.
Et en fait, c'est simplement d'allier la théorie au fait de vivre soi-même l'expérience, que ce soit avec la marche verte, que ce soit avec l'inauguration au Parlement. Et j'imagine que ça donne aussi un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance plus fort avec le Maroc, vous diriez?
Absolument, absolument. La culture, c'est le moyen le plus fort de toucher les gens. On les touche avec les émotions. Les Marocains, on est très sensibles aux causes nationales, on est très sensibles à nos parents, à notre roi. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de sans sens-là, et si en plus on peut sentir qu'on a pris part même symboliquement, c'est ça ce qui marque le plus les jeunes et c'est ça ce qui fait en sorte que le projet s'est fait connaître et qu'aujourd'hui on a reçu plus de 5-6 000 applications juste pour cette édition-là.
6 000 candidatures
absolument.
Pour retenir 50 personnes.
C'est l'enfer. Il faut vraiment qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse à la suite des choses. Ça marche pas. Et là, il faut qu'on s'assoie et faire une réunion interministérielle parce que vraiment, et je le dis avec humilité, cette année, on a eu l'appui de la Fédération Royale du Football. Les gens commençaient à voir l'impact concret. On a le ministère de l'Industrie et du Commerce qui a répondu présent aussi. Il y a des gens qui commencent à s'intéresser à la manière qu'on fait les choses. Et je le répète, c'est par les jeunes Marocains du monde, pour les jeunes Marocains du monde. On n'est pas là. C'est pas un événement organisé par le gouvernement et on assiste. Non, on prend part, on réfléchit, c'est nous les stars en fait. C'est cette jeunesse marocaine du monde qui s'exprime. Et je pense que c'est comme ça que le projet se distingue. Ce soir, on a un match avec les légendes du foot et toutes les sommes amassées vont aller à SOS Village pour équiper un terrain d'un des villages de l'association. Donc c'est du concret et je répète, on est les protagonistes. Aujourd'hui, ils jouent un match, hier ils ont défilé Plokhtan avec leur maman à la soirée d'inauguration HLA qui a lieu hier, donc le 21. Demain, ils présentent devant Monsieur Riyad Mizou et ensuite il y a le voyage. Ils sont constamment dans le mouvement. C'est les protagonistes de l'histoire et à la fin, un documentaire qui sortira encore. Donc, c'est comme ça que le projet se distingue, qui fait en sorte qu'on a beaucoup de candidatures, mais malheureusement, pas assez de place.
C'est un bon signe de succès en tous les cas. Merci beaucoup, Hibel Haïdi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc une toute jeune avocate au barreau du Québec. C'est là où vous avez grandi et que vous avez créé donc, ce programme d'immersion Moroccan with Purpose pour les jeunes Marocains de la diaspora. Où est-ce que les gens peuvent voir votre programme de la semaine?
Alors, ils peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Morocco with Purpose sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur ma page personnelle aussi, et on continue à publier. Également sur la page des créateurs de contenu marocains, Amila Aouni, Bahasnari, Adil Tawil, donc ils continuent à partager voilà, tout ça toute la semaine.
Merci beaucoup. Merci encore à Riva Laïdi. Et puis donc, très bonne semaine à vous. Je sais que c'est une semaine bien chargée, donc bon courage.
Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup.